Terrorisme, images de guerre, densité de population, agressions sonores, conflits en tout genre, le monde dans lequel nous vivons semble de plus en plus violent. On assiste en ce moment à un courant qui souhaite justement prendre le contre-pied des événements en valorisant la non-violence. Où la violence puisse-t-elle d'abord ses racines et comment la combattre efficacement? C'est le dossier cet après-midi de La Tête au Carré. J'attends dès maintenant vos messages, vos questions sur le site de l'émission. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Une découverte décoiffante aujourd'hui à la une de la science.
Et oui, des chercheurs français ont identifié l'origine du syndrome des cheveux incoiffables. Si ça existe, et c'est sérieux. On en parle avec le biologiste qui s'est arraché quelques cheveux sur le problème, Michel Simon.
Et c'est Stéphanie Texier qui est aux commandes de cette émission préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Comment promouvoir la non-violence? Ce sera donc le dossier dans quelques minutes de l'émission avec mes invités, le professeur Laurent Beg et le chanteur Jean-François Bernardini. Bonjour
à tous les deux.
Bonjour.
Laurent Beg, est-ce que nous vivons vraiment une époque qui favorise la violence?
Alors il y a des violences, donc c'est difficile de répondre à la question. Il y a différentes formes de violences, des violences d'État, des violences contre l'État, des violences interpersonnelles. Donc il faudrait la segmenter en petits bouts. Mm-hmm. Et puis évidemment utiliser des indicateurs pour établir si la violence augmente ou diminue. On en reparlera, je pense.
Oui, vous avez quand même des choses à nous dire hein, à ce sujet. Jean-François Bernardini, vous êtes la voix du groupe Corse Imouvrini. Et avec votre fondation Oumani, vous parcourez maintenant le pays pour promouvoir justement la non-violence dans les écoles, par exemple. Il y a une forte demande autour de ce phénomène en ce moment?
Il y a une soif, il y a une famine. C'est le besoin d'être mieux équipé pour la vie, pour la résolution du conflit. Nous ne sommes pas éduqués pour le conflit et dès qu'il y a une autre route qui s'ouvre que celle qui nous enferme entre se soumettre ou détruire, ça ouvre un espoir.
En tout cas, c'est toutes ces personnes que vous rencontrez régulièrement maintenant. Vous consacrez une large part de votre temps à aller parler de non-violence. Et c'est ce qu'on va faire au micro de La Tête au Carré ensemble dans quelques minutes avec les questions, les témoignages des auditeurs. Franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Pili Triangouli et Kana Likouli, qui est aussi appelé le syndrome des cheveux incoiffables, aujourd'hui à la une de la science, une maladie génétique décrite pour la première fois en 1973 et qui est intrigante et dont vous venez de percer les mystères, Michel Simon. Bonjour à vous.
Oui, bonjour Mathieu Vidard.
Vous êtes directeur de recherche dans l'unité INSERM Différenciation épidermique et auto-immunité rhumatoïde, c'est à Toulouse. Et donc vous publiez avec des collaborateurs du monde entier la première explication génétique et biologique de ce trouble des cheveux incoiffables. Alors comme beaucoup de nos auditeurs, je ne connaissais pas du tout cette maladie avant ce matin. Qu'est-ce qui caractérise d'abord un cheveu incoiffable?
Alors c'est un cheveu qui se dresse sur le cuir chevelu, qui pousse dans tous les sens et comme son nom l'indique, on ne peut pas le coiffer et on ne peut pas l'aplatir avec lui donner la forme que l'on a envie de lui donner avec un peigne. Alors l'une des autres caractéristiques de ce cheveu, c'est sa couleur. C'est une couleur un peu blonde, platinée, avec une brillance très particulière qu'on ne retrouve pas dans d'autres types de cheveux. Et la troisième caractéristique, c'est sa forme. Si on le regarde sous un microscope, qu'on l'agrandit 200, 300 fois, on va se rendre compte qu'au lieu d'avoir un cheveu qui normalement est cylindrique régulier, on va avoir un cheveu qui présente comme une gouttière tout le long du cheveu. Et si on le coupe, au lieu de voir un cercle, on va voir quelque chose qui ressemble plus à un cœur.
D'où ce nom, hein, Pili Triangouli et Kana Likouli, hein, Axel.
Est-ce que c'est dangereux d'être atteint de ce syndrome du cheveu incoiffable?
Non, dangereux sûrement pas, puisque ça touche essentiellement le cheveu. Alors quelques cas ont été rapportés où le syndrome était associé à des modifications beaucoup plus importantes, des troubles plus importants, comme par exemple des cataractes juvéniles ou des défauts de pigmentation de la rétine. Mais c'est des cas vraiment très très rares. Dans la plupart des cas qui ont été rapportés, c'est uniquement le cheveu qui est modifié. Donc évidemment, ça n'est pas grave. Et encore moins grave, d'autant plus que le syndrome va progressivement disparaître avec l'âge et qu'en général, on le voit très bien chez les enfants alors que les adultes, on ne verra plus finalement de problèmes sur leur chevelure.
Beaucoup d'enfants sont concernés ?
Alors actuellement, on connaît une centaine de familles ou d'enfants qui sont atteints de ce syndrome, mais probablement que la fréquence est beaucoup plus importante. D'une part, parce que si vous ne pouvez pas coiffer vos enfants le matin, vous n'allez pas forcément aller voir votre médecin, encore moins votre dermatologue.
C'est vrai.
Du coup, on n'a pas fait le diagnostic. Mais nous avons aussi, en fait, puisque maintenant nous connaissons, nous avons identifié les causes génétiques de cette maladie. Si nous recherchons dans une population normale, on connaît maintenant plus de 50 ou 60 000 génomes d'individus normaux, d'hommes ou de femmes normaux dans le monde qui ont été séquencés. On retrouve à peu près ces mutations de l'ordre de 1 pour 10 000 personnes. Donc on peut penser que la fréquence de la maladie est de cet ordre-là.
Alors, venons-en à votre découverte. Qu'est-ce qui fait que ce cheveu pousse de cette manière et avec cette forme, alors ?
Alors, les mutations que nous avons identifiées vont modifier soit l'activité, soit la présence même de trois protéines qui sont probablement importantes pour la structure elle-même, la structure intime du cheveu, donc du follicule pileux. C'est tout d'abord la tricoyaline, qui est une protéine qui est importante parce qu'elle va organiser les filaments de kératine, donc la protéine, les protéines majoritaires du cheveu. Elle va organiser ces protéines dans la tige pilaire. Les deux autres enzymes modifient cette protéine et lui permettent de remplir ses fonctions. Donc c'est probablement ce défaut de ce pathway biochimique qui va induire des défauts de structure du cheveu.
Est-ce que cette découverte de la structure et de l'action de la tricoyamine, comme vous le dites, peut avoir d'autres applications en dehors du domaine capillaire ?
Alors, on peut penser que oui, parce que en fait, ces protéines, nous y intéressons depuis de nombreuses années, pas du tout pour leur rôle dans le cheveu, ou pas essentiellement pour leur rôle dans le cheveu, mais surtout pour leur rôle dans l'épiderme. Puisque ces protéines sont aussi exprimées, les deux enzymes dont nous parlons, ou non, pas tout à fait la tricoyaline, mais une protéine qui lui ressemble beaucoup, qui s'appelle la filagrine, donc c'est une petite cousine finalement. Et ces protéines jouent un rôle important dans l'épiderme et dans la fonction de barrière que joue cet épiderme, puisque comme vous le savez, l'épiderme est à l'interface entre l'organisme et l'environnement extérieur, et empêche la pénétration dans l'organisme de micro-organismes, de molécules chimiques qui pourraient être délétères pour la peau, et dans l'autre sens, empêche la perte des fluides corporels. Et ces protéines jouent un rôle très très important aussi dans cette fonction. Donc c'est pour cette raison que nous nous y intéressons. Et évidemment, mieux comprendre leur rôle dans le follicule pileux, dans le cheveu, ça nous permet aussi de mieux comprendre leur rôle et leurs interactions dans l'épiderme.
Michel Simon, c'était compliqué de trouver, d'identifier ces mécanismes du cheveu incoiffable. Il y avait plusieurs équipes qui étaient sur le coup là, ou pas ?
Alors oui, c'est une collaboration multicentrique qui a réuni en fait des généticiens, des dermatologues et des biologistes de au moins 6 ou 7 pays européens.
Ah oui, quand même.
Qui ont soit apporté leurs connaissances en génétique, soit apporté parce qu'ils voyaient des patients eux-mêmes dans leur service de dermatologie. Et c'est vraiment un travail collaboratif qui a permis de réaliser cette découverte.
Est-ce qu'il serait indispensable de proposer un traitement, un shampoing ou quelque chose, ou c'est pas nécessaire actuellement ?
Alors pour l'instant, c'est pas nécessaire, je pense, de proposer un traitement, d'autant plus qu'on n'a pas de traitement à l'heure actuelle. Mais c'est vrai qu'éventuellement, l'identification des mécanismes à l'origine de ce défaut du cheveu pourrait, dans un avenir plus ou moins proche, permettre d'identifier des molécules qui pourraient agir sur ces protéines et donc résorber en partie le phénotype.
Mais c'est considéré comme étant une maladie.
C'est considéré comme étant une maladie, et une maladie génétique, oui, tout à fait. C'est pas uniquement un trouble léger du cheveu. Bon, j'imagine que les enfants qui ont des cheveux comme ça sur la tête ont probablement aussi des moqueries qui leur viennent de leurs camarades à l'école, qui doivent pas être toujours faciles à vivre.
Mais vous l'avez dit, pourquoi ce trouble disparaît quand on vieillit, et pourquoi il touche simplement les enfants ?
Alors c'est une bonne question. Pour l'instant, on n'a pas vraiment la réponse. Le cheveu, il change de morphologie, il change de diamètre. Par exemple, quand on regarde un cheveu chez un jeune enfant, on voit très bien que le diamètre est plus fin que chez dans le cheveu d'un adulte. Donc on peut penser que ces modifications du cheveu au cours de l'adolescence vont permettre de résorber ce phénotype. On peut aussi imaginer des compensations avec l'expression d'autres protéines qui vont remplacer ces protéines qui sont anormales dans le cheveu, qui font que peut-être chez l'adulte, on ne retrouve plus ce phénotype, cette mauvaise formation de la tige pilaire du cheveu lui-même.
Michel Simon, merci beaucoup. En tout cas, dorénavant, vous serez donc l'homme qui a percé les secrets du cheveu incoiffable. Et ça, quand même, dans une carrière de scientifique, c'est important. Merci beaucoup. Et on salue toutes les équipes qui ont travaillé avec vous. Vous étiez en ligne avec nous depuis Toulouse, depuis votre unité INSERM. Merci, Michel Simon.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Au revoir.
Et Axel, on se dit à demain.
À demain, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, dormir après manger, eh bien, tout dépend de ce que l'on a mangé, justement. Une équipe de chercheurs américains s'est intéressée à la fameuse sieste postprandiale, cet assoupissement du corps et ce besoin de dormir qui survient peut-être pour vous en ce moment même après votre repas. Eh bien, en étudiant le phénomène chez la mouche drosophile, les chercheurs montrent que ce qu'ils appellent le coma de satiété est d'autant plus long que le repas est protéiné, mais surtout salé. Si jamais le même phénomène existe chez l'homme, ce qui n'est pas encore démontré, bien voici une raison de plus, en tout cas, de diminuer les doses de sel dans vos assiettes. Les fourmis pratiquent l'agriculture depuis plus longtemps que les hommes. On savait déjà que certaines fourmis étaient capables de cultiver des champs de champignons pour nourrir leurs colonies, mais des chercheurs allemands démontrent maintenant que ces insectes cultivent aussi des plantes. Une espèce de fourmi baptisée Philidris nagaso, découverte sur les îles Fidji, recueille des graines, les dépose dans des petites fissures qu'elle trouve dans les arbres et les jeunes pousses qui germent forment alors des sortes de chambres creuses, des abris constamment visités par les fourmis qui défèquent dedans également pour fertiliser la plante et l'aider à pousser. Une symbiose donc entre plantes et animal qui existe depuis 3 millions d'années, soit 2 800 000 ans avant l'apparition de l'homme moderne et donc de ses pratiques agricoles. Et puis la NASA est prête à vous offrir 30 000 $ si vous trouvez une solution à son problème de space poop, en français de caca dans l'espace. L'agence spatiale américaine lance en effet un concours très sérieux dans le but de trouver une solution pour que les astronautes urinent ou défèquent pendant les missions spatiales. Pour l'instant, la solution consiste à les équiper simplement de couches. Le système, pour être accepté, doit être intégré à la combinaison collectée, urine, matière fécale et perte menstruelle, et pouvoir fonctionner justement pendant 144 heures, soit 6 jours. Vous avez jusqu'au 21 décembre pour proposer vos idées sur le site Error X en lien sur la page Facebook de l'émission. Allez, nous parlons de la non-violence dans un instant avec mes invités et j'attends vos messages. Vous nous écrivez en direct sur franceinter.fr. Glass Animals avec Youth.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Avec un dossier sur la non-violence cet après-midi, et mes invités pour en parler, Jean-François Bernardini et Laurent Beg. Laurent Beg, vous êtes chercheur et professeur en psychologie sociale. Vous avez publié en 2015 chez Duno l'agression humaine. Et puis Jean-François Bernardini, on vous connaît comme chanteur du groupe Imouvrini, mais également président de la fondation AFC Oumani. Les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions donc sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Jean-François Bernardini, on va raconter juste en deux mots comment on s'est croisés. On s'est rencontrés complètement par hasard dans les rayon d'un magasin d'alimentation, et on a discuté ensemble, et j'ai découvert à cette occasion que vous meniez depuis maintenant 6 ans, c'est ça, des rencontres autour de la non-violence, et vous le faites de façon très dense, vous voyagez quasiment toutes les semaines pour aller dans des écoles par exemple, mais pas seulement. Racontez-nous comment vous avez commencé ce travail bénévole qui donc aujourd'hui vous fait voyager un peu partout.
Cette fondation Oumani, elle est constituée de passionnés de solutions, de gens qui se disent « je ne parle que d'un problème que si j'ai un début de solution à proposer ».
Donc pas seulement sur la non-violence.
Nous avons 5 programmes d'action, dont un sur l'environnement, le multilinguisme, la transmission des savoirs. Et on a osé, il y a 6 ans, lancer ce programme « Deviens artisan de la non-violence ». Avec cette idée, qu'est-ce qu'on peut amener? Quel est le petit pas que l'on peut faire? Et bien évidemment, on s'est confronté à ce devoir de mettre sur la place publique une totale inconnue. La non-violence est une totale inconnue.
De quel point de
en
vue?
En France. Dans le sens
du point de vue de la recherche,
Dans le sens où c'est un paradigme soit qui fait sourire, soit avec lequel on peut se faire ridiculiser. Un Corse qui parle de non-violence, avouez quand même que c'est un
ça
peu banal, inattendu.
Ça commence mal.
Et tout ça, en fait, fait partie de la problématique. Et ça n'est pas... Elle est, par exemple, enseignée dans les plus grandes universités du monde, à Yale, à Cambridge, à Harvard. Il n'y a pas une seule chaire d'université en France sur la non-violence.
Laurent Beg, vous confirmez?
Pas encore, j'ai envie de dire.
Il y a un vrai déficit dans ce domaine en France?
Oui, mais là, on s'intéresse plus finalement aux problèmes qu'aux solutions. Et le déficit est plus vite remarqué, finalement, que les tentatives constructives d'y remédier.
Et donc, Jean-François Bernardini, vous êtes inspiré des exemples étrangers justement pour essayer d'apporter des solutions à ce thème?
On s'est inspiré d'abord parce que la situation actuelle nous interroge tous et qu'elle interroge encore plus le paradigme de la non-violence. Et puis on s'est dit comment on peut entreprendre cette alphabétisation. Effectivement, notre ami dit on s'intéresse beaucoup plus à la pathogénèse, ce qui est très intéressant. Mais s'intéresser à la salutogénèse. Qu'est-ce qui fait la santé d'une société? En quoi nous pouvons constituer ce terreau dont nous avons tous besoin? Ce terreau d'outils, de philosophie, de méthodes qui nous permettent justement de mieux nous éduquer face au conflit. Ouais. Parce que face au conflit, n'étant pas éduqué, nous avons l'alternative. Soit je m'écrase, je me soumets, soit je détruis.
Ouais. On va voir qu'il y a des nuances, justement. Que la non-violence, c'est pas justement éviter le conflit. Au contraire, il faut disposer de bonnes armes aussi. Juste un mot encore sur vous, sur votre implication dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, vous allez dans beaucoup d'endroits et vous êtes devenu, au fond, formateur sur le tard, Jean-François Bernardini?
Je suis pas formateur. Je suis un apprenti de la non-violence. Je suis un candidat à la non-violence. Ce dont je me sers, c'est de mon statut d'artiste pour ouvrir des portes, pour mettre dans des différentes conférences que je fais et pour surtout ouvrir la porte à des formateurs, à des formatrices, dont l'AFC Oumani a contribué à en former quelques-unes, mais c'est en même temps se mettre en relation avec toutes les forces vives de la non-violence en France. Je veux parler de Génération Médiateur, de Fondation Non-Violence 21, des IFMAN, Institut de Formation Mouvement Alternatif Non-Violent, les MAN, etc., les gens qui travaillent dans la communication non-violente, les grands penseurs de la non-violence en France également, comme Jean-Marie Muller, comme Jacques Semelin, la revue Alternative Non-Violente. J'ai beaucoup de gratitude pour ces gens-là, parce que je les ai lus très tôt. Ils m'ont beaucoup aidé et convié vers cette marche et cet itinéraire.
Alors Laurent Beg, si on se retourne justement du côté de la psychologie sociale et des sciences en général, qu'est-ce qu'on a, de quoi on dispose justement pour nous aider à comprendre d'abord peut-être les racines de cette violence?
Alors le point de départ, c'est d'abord qu'il y a bien sûr, et tout le monde en est d'accord, plusieurs formes et donc plusieurs motivations également de violence. Je disais tout à l'heure, il y a des violences donc interpersonnelles qui pourront être traitées par de différentes manières. On va travailler par exemple sur la régulation du conflit, qui peut être sous-tendue également par la capacité à gérer et à canaliser ses émotions, qui souvent sont impliquées dans les violences dites réactives. Mais il y a également les violences proactives qui sont finalement menées pour aboutir à un but visé. Par exemple, on va effectivement arracher un téléphone, on va brutaliser la personne, mais le but n'est pas de lui faire mal, mais plutôt de lui arracher son téléphone. Et on distingue différentes sortes de violences. Cette violence, eh bien, elle résulte à la fois de situations, de contexte, et puis de dispositions individuelles qui elles-mêmes sont forgées par l'histoire des personnes, de leur culture, par leur biologie également, et tout cela va conduire, dans certaines circonstances spécifiques, à produire ou non une action agressive.
Est-ce que vous avez le sentiment justement qu'aujourd'hui on vit une époque plus violente que celles qui nous ont précédées, en tout cas dans notre culture ici en Occident ?
Alors, on ne peut pas vraiment répondre directement parce que tout dépend des indicateurs. D'abord, la question, évidemment, sa formulation est importante, mais je dirais la réponse à laquelle...
À quoi on peut se référer pour avoir une réponse là-dessus ?
Il y a plusieurs indicateurs. On peut travailler sur les statistiques, par exemple, de l'homicide, qui ont été divisées par deux en France depuis 20 ans.
Donc, qui contredisent d'ailleurs notre intuition sur la question, parce qu'il y a moins d'homicides qu'avant.
Beaucoup moins. On peut travailler sur les recherches, les enquêtes de délinquance auto-reportées, ou bien des enquêtes de victimation, qui donne lieu à des évolutions qui sont beaucoup moins importantes et inquiétantes que ne le suggèrent les évolutions des statistiques officielles, parce qu'effectivement, elles sont probablement plus directement liées aux répondants, et donc il y a bien moins de filtres finalement et de biais liés aux filtres de recueil d'informations. Donc globalement, on assiste à une diminution des violences extrêmes, enfin tout dépend, des violences, des homicides en tout cas, et à une stabilisation de certaines violences interpersonnelles. Mais encore une fois, les indicateurs sont importants.
Ouais. En tout cas, on a quand même le sentiment que notre culture donne beaucoup d'importance à la violence. En tout cas, elle s'en fait beaucoup l'écho.
La violence vient rompre finalement quelque chose qui est attendu. En fait, globalement, la majorité des interactions humaines ne sont pas violentes. Et précisément, c'est pour cela qu'elle surprend. C'est pour ça qu'elle étonne. Alors bien sûr, elle fait encore partie des exceptions. Lorsque l'on comptabilise par exemple les comportements d'interaction, que ce soit les enfants ou les adultes, la majorité sont des comportements à connotation neutre ou bien coopérative. Et lorsqu'on étudie effectivement l'évolution de ces expressions chez les enfants, on constate que progressivement, d'ailleurs, ils apprennent avec l'autocontrôle, à diminuer les interactions directes, agressives, et à faire davantage appel à des ressources verbales et coopératives. Donc ça s'apprend, mais il y a également des évolutions neurologiques qui permettent de contrôler chez l'enfant des impulsions à réagir de façon agressive. Et donc tout cela témoigne de ce que on peut observer les comportements in situ et constater que le plus souvent, ils ne sont pas violents.
Jean-François Bernardini.
J'ai envie de dire que si la violence, bien évidemment, on peut dire les statistiques que vous donnez, elles sont très intéressantes. Si la violence est là et qu'elle nous interroge, c'est peut-être avant tout et surtout parce qu'elle est un marché.
C'est-à-dire ?
La violence est un marché. Au même moment où nous parlons ici de non-violence, combien y a-t-il de laboratoires dans le monde qui sont en train de réfléchir à comment inventer des armes plus efficaces, plus probantes ? 1900 jeux vidéo sont sortis l'an dernier, 1200 faisaient référence à la violence.
Alors justement, il y a un message de Fred qui nous dit « Je vois mal comment diminuer la violence alors qu'il y a de plus en plus d'armes en circulation, que les marchands d'armes, d'alcool, de drogue ont besoin de gagner toujours plus d'argent. » Laurent Bègue.
Je dirais la question de l'accès aux armes à feu, par exemple, aux armes tout court, est une question fondamentale. Et évidemment, on ne peut pas imaginer que les gouvernements s'intéressent et s'attaquent à la violence dans leur propre territoire sans les interroger sur leur capacité à vendre des armes, par exemple, à l'extérieur.
Pour illustrer notre sujet, un extrait du film de Georges Lautner, en 1966, « Ne nous fâchons pas ».
Quelque chose qui te gêne ? Moi, j'aimerais mieux qu'on discute d'armistice en position de force. Et sans aller jusqu'à le buter, on pourrait quand même lui filer le traxir au colonel, non ? Oui, c'est pas en lui filant comme tu le traxir que Gandhi a possédé les Anglais. Eh ben nous, on les possédera avec les mêmes armes. Non-violence, persuasion, grâce.
Alors qu'est-ce qu'on fait ? On continue dans la grâce ?
On va aviser. Mais aviser dans le calme. La tête reposée. Se méfier de nos nerfs.
Voilà, une façon tout à fait particulière de lutter contre la violence. Laurent Bègue, quelles sont les conditions justement qui favorisent en tout cas les conduites agressives ? On peut en identifier plusieurs.
Alors les éléments de situation ont été relativement bien étudiés en contexte contrôlé, en laboratoire. Ça peut être par exemple des stimulations thermiques désagréables et des recherches qui ont été faites depuis...
La température joue beaucoup sur les actes agressifs.
Les statistiques ont été menées depuis plus d'un siècle maintenant dans différents pays du monde et qui ont été bien répliquées sur les liens entre température et comportement agressif, notamment agression extrême contre les personnes. Alors ça tient en fait évidemment que lorsqu'il fait chaud, les gens boivent également plus et ont plus d'interactions. Mais indépendamment de cela, on a effectivement observé en laboratoire par exemple que des personnes qui sont à 24 degrés ou bien à 32 degrés, eh bien, ont des réactions différentes lorsqu'on les provoque. Donc, il y a toute stimulation désagréable, qu'elle soit sonore, qu'elle soit thermique, mm-hmm. qu'elle soit olfactive, eh bien, active des cognitions, des idées qui sont finalement, qui rapprochent de réactions hostiles dans certaines situations.
Il y a d'autres environnements favorables, justement, aussi à l'émergence de l'agressivité.
Alors, il y a ensuite, bien sûr, des facteurs de nature, je dirais, idéologique ou culturelle qui vont favoriser ou inhiber les réponses agressives. Et c'est en ça que je trouve la démarche de prévention est quelque chose de fondamental, puisqu'elle inscrit dans la culture des registres, des répertoires de conduite qui sont considérés comme légitimes face à une situation où on pourrait observer justement un comportement d'antagonisme destructeur. Eh bien, la recherche de solutions, la valorisation finalement de comportements constructifs est importante. La culture est très porteuse justement, et ça a été évoqué à l'instant, de contenu qui valorise la violence, qui la rend sympa, qui la rend cool et décontractée. Mmh. Et une manière justement d'inscrire à long terme des schèmes de comportement moins agressifs consiste justement pour la culture à porter et à valoriser des initiatives qui sont courageuses dans ce sens.
Jean-François Bernardini.
Je pense que le plus grand mensonge que l'on nous vend, c'est cette fatalité de la violence. C'est-à-dire que la violence, elle est dans notre nature, c'est ce qu'on nous a
appris. Et on ne peut rien y faire.
On ne peut rien y faire, c'est fatal. Et ça, je crois, c'est le plus grand mensonge que nous avons avalé depuis très très longtemps et qui est largement démenti aujourd'hui par les neurosciences. Les travaux des neuroscientifiques dans le monde sont unanimes de ce point de vue-là. Je pense aux travaux de Joachim Bauer en Allemagne, de Gerhard Luther, aux travaux de la California University. Ils nous disent quoi aujourd'hui ? Ils nous disent que notre nature, elle est compassionnelle. Elle est empathique. Elle est altruiste. C'est notre équipement biologique de base. L'empathie, c'est le levain de la non-violence. Elle nous dit que les neurosciences nous disent que nous avons une aversion à l'inégalité, que nous avons un cerveau social. Elles nous disent aussi, et ça pourrait nous aider d'ailleurs à lire les événements que traverse notre pays, elles nous disent aussi que quand je suis exclu, quand je suis humilié, quand je suis déclassé, mon cerveau classe cela comme une menace mortelle. Arracher un ongle, ça fait mal. Perdre son appartenance, être humilié, être déclassé, est une menace mortelle pour le cerveau.
Et ça engendre donc de la violence.
Donc, combien notre monde aujourd'hui produit-il d'humiliés, de déclassés, de brisés ? Donc, nous avons un terreau qui favorise ce terrain-là. L'idée maintenant aujourd'hui, c'est de dire, tu as droit à toutes les colères, tu as droit à l'humiliation, la blessure, elle fait partie de la vie. Qu'est-ce que tu fais de ta colère ? Qu'est-ce qu'elle devient ? Et c'est là où le paradigme de la non-violence peut nous aider. Là, et c'est en ce sens où la non-violence n'est pas du tout une démarche contre la violence. Car la violence, c'est une énergie. C'est une énergie qu'il ne faut pas combattre, mais recycler, transformer, écouter, accueillir en disant « tu peux mieux faire ».
Donc le conflit, voire l'agressivité, ça peut faire partie aussi d'une démarche non-violente.
La démarche non-violente, c'est d'abord de réhabiliter le conflit. Tant que nous serons vivants, nous aurons des conflits. Dans votre famille, dans la salle à manger, dans les cours de classe. Mais le conflit ne nous condamne pas à nous faire la guerre. Et c'est là où véritablement les outils, les méthodes, la prévention de la non-violence peut nous aider à dire « mais par la médiation, par le tiers ». Quand vous dites à un junior « tu as droit à toutes les émotions », tu n'as pas droit à tous les comportements. Mais il le comprend aisément, parce que ça le reconnecte profondément avec sa nature, avec son équipement biologique de base. Je me suis retrouvé, après les événements de Charlie et autres, dans des lycées où, vous savez, a émané dans toute la France cette question « Charlie, c'est bien fait pour eux ». C'est une question qui est dans l'air, d'accord ? Elle n'est pas générale, mais elle est dans l'air. Je me suis posé la question, j'ai dit « Mais là, que dit la non-violence ?» Effectivement, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je me suis retrouvé face à des élèves qui affirmaient à la fois leur religion et puis qui disaient moi, Charlie, c'est bien fait pour eux. Et c'est là où la non-violence peut m'aider. Je leur dis, d'abord, je reçois ton émotion. Je reçois ta colère. Car tu n'es pas un comédien, tu me dis quelque chose qui est au profond de toi et qui te fait forcément mal. D'ailleurs, je ne suis pas musulman, mais sans l'être, je peux être moi-même choqué par une caricature de Charlie que je peux trouver plus ou moins talentueuse, même si j'en suis un lecteur. Mais entre quelqu'un qui utilise un stylo et une kalachnikov, il n'y a pas photo. Et c'est là où la non-violence vient m'aider. Je lui pose la question, je lui dis, après les événements des 7, 8 et 9 janvier, où il y a fait 20 victimes, c'est-à-dire 3 bourreaux et 17 victimes innocentes, si parmi ces gens-là, il y avait eu la personne que tu aimes le plus au monde, aurais-tu préféré qu'elle soit dans le rôle de la victime innocente ou dans le rôle du tueur qui a lui-même perdu la vie ? Eh bien, je peux vous dire qu'au bout de 5 minutes, ça c'est le pas de côté de la non-violence, nous sommes tous d'accord pour dire que la vie c'est sacré. Le meurtre n'est pas négociable. Tu n'as pas le droit à franchir cette ligne-là. C'est là où la non-violence nous reconnecte avec notre équipement empathique. La vie, c'est sacré. C'est vrai dans toutes les religions et dans toutes les non-religions. Et nous repartons en paix. Et c'est là où elle apaise. C'est là où vous remettez le corps social en paix et où chacun retrouve une appartenance.
Wind moves upon the fields of Bali.
Dios alevie, ti nascurderà camminando in Tarador.
And so she took her love far to gaze a while upon the fields of Bali.
Ed una carezza si sostringe a pene mezzo a quelle dare d'oro.
Will you stay with me? Will you be my love among the fields of Bali?
Dios alevie, ci nascurderemo una notte in tarde.
See the west wind move like a lover's soul upon the fields of Bali.
Ci sarà l'amore, non tua esolabre, mezzo a quelle dare d'oro.
I've never made promises like it, and there have been some that I've broken, but I swear. Still left the walking fields of gold. The walking fields of gold. Many years have passed since those summer days among the fields of Bali.
Vestiti de luci mentre il sole giova mezzo a quelle dare d'oro.
You remember me when the west wind moves upon the fields of Bali. You can tell the sun in his jealous sky when they walked in fields of gold.
Una volta andata.
When they walked in fields of gold.
Votre voix, Jean-François Bernardini, à l'instant, avec celle de Sting, Terre d'Oru, Imouvrini, justement. C'était en quelle année, ce titre, avec Sting?
Début des années 2000.
Ouais, ouais. On entend toujours ça, que, ouais. Toujours autant de plaisir. Vous êtes notre invité pour parler de non-violence avec le chercheur en psychologie sociale, Laurent Beg. D'ailleurs, je signale qu'avec Imouvrini, vous serez le 1er décembre au Zénith, à Paris, pour un concert autour de la non-violence. Ouais, vous allez jusque-là, maintenant?
Une fête pour la non-violence. Ouais. Notre dernier tournée, c'était « Music for Non-Violence ». Et je pense que le devoir d'un artiste aujourd'hui, c'est de répondre aux défis de son époque et d'être passionné de solutions sur scène aussi.
Avec 100 voix gospel.
Oui, hein, tout
on
à
va
fait.
Avoir les poils qui vont se dresser sur les bras avec ce concert. Laurent Beg, il faut venir à Paris, hein, vous qui êtes de Grenoble, le 1er décembre prochain pour applaudir Imouvrini pour cette fête de la non-violence, avec un album d'ailleurs qui va sortir, un nouvel album du groupe, le 9 décembre prochain, qui s'appelle Pianeta. Hein. Oui. Laurent Beg, un mot quand même, parce qu'on entendait ses propos tout à l'heure de Jean-François Bernardini qui nous disait, ben voilà, on est naturellement équipé au fond pour l'empathie, pour la non-violence. Pourquoi il y a autant de dysfonctionnements alors ?
Alors en fait, je crois qu'on peut comprendre, disons, les comportements violents sous différentes modalités. Donc la psychologie a coutume de distinguer différents niveaux d'explication.
Oui. Et
je pense que pour appréhender la question de la violence, il faut essayer d'organiser en fait ces différents niveaux. Donc on a le niveau intrapersonnel, c'est-à-dire la violence étant la conséquence soit de déficits du type, par exemple, régulation des émotions, exécution de l'action, inhibition de l'action, testostérone élevée, sérotonine basse. Il y a plein de marqueurs qui ont été étudiés en laboratoire chez les biologistes. Vous avez ensuite les explications de type interpersonnel, ce niveau, si vous voulez, interpersonnel, où là, la violence, ça sera la conséquence, par exemple, d'une interaction. Et n'importe qui, lorsqu'il est insulté, a une réaction, effectivement, indépendamment de sa testostérone ou de ses contrôles exécutifs, a une réaction immédiate de réaction potentiellement agressive lorsqu'on l'insulte. Donc il y a des logiques comme ça d'interaction qui vont présider au comportement. L'explication du troisième niveau, c'est un niveau de type positionnel, c'est-à-dire on va finalement avoir une interprétation en termes, par exemple, de relations intergroupes. Et on peut très bien expliquer une violence par des variables, je dirais, endogènes, psychologiques ou biologiques, pour expliquer la réaction à une situation donnée, sans pouvoir pour autant avoir une pertinence lorsqu'on explique la violence intergroupe. Finalement, n'importe qui peut être sensible, par exemple, à un grief historique, quels que soient ses paramètres biologiques. Et donc, ça va avoir une sorte d'autonomie explicative importante. Et puis, le quatrième niveau, c'est un niveau idéologique, c'est-à-dire la manière dont la violence va être valorisée, portée par une culture, avec une histoire. Voilà, tout à fait. Et donc, ces quatre niveaux sont très, très hétérogènes. Donc, il n'y a pas, je dirais, une réponse, mais bien des réponses différenciées.
Alors, sur l'aspect culturel, tiens, un mot quand même de la Corse, Jean-François Bernardini, un pays qu'on associe souvent avec une idée de violence.
Oui, bien évidemment, avec des taux de criminalité qui ont été très importants et qui le sont d'une certaine manière.
Et bien au-delà de la moyenne nationale d'ailleurs.
Mais en même temps, des taux d'impunité. Et je crois que les deux vases sont des vases communicants. Et donc, le raccourci, ce serait d'expliquer cela par une sorte d'appétence des Corses pour la violence. Je crois qu'il y a dans l'histoire de la Corse à la fois, parmi ce qui peut favoriser des déclencheurs de violence, il y a à la fois une histoire qui a été violente, une histoire qui n'est pas nommée, reconnue et dite. Il y a aujourd'hui dans la conscience et dans la psyché collective des Corses et des continentaux également, un trauma. Le propre d'un trauma, c'est une blessure qui n'est pas guérie, qui n'est pas dite, qui n'est pas nommée. Le trauma existe et c'est lui qui favorise des déclencheurs que l'on peut voir sur un stade de football, dans un commentaire, etc., etc. Je pense que tant que nous ne sortirons pas de cette réalité-là, nous aurons en permanence une chronicité d'un retour à la violence qui, à mon avis, n'est pas naturel, n'est pas culturel, mais dépend de ce terreau-là qui est un réservoir de violence, qui est un réservoir d'humiliation. Et la force et la grandeur des hommes, c'est d'être assez fort pour être levé la tête et être au-dessus de ça.
Donc ce qui est important, et ce qu'on entend dans ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme au fond de la violence, Laurent Bègue.
Il y a des facteurs de risque, je dirais, effectivement, qui existent. Après, il y a des schèmes culturels qui sont assez transversaux de réaction, par exemple, à la mise en cause de l'honneur, que peut-être on peut détecter dans le contexte corse, mais pas seulement d'autres contextes. Et c'est un facteur, évidemment, qui rend plus délicate la gestion de conflits, puisqu'il y a un niveau de réactivité qui va être plus important.
Vous avez remarqué que ces notions-là, très souvent, on les situe davantage dans le sud. L'historicité du Sud, c'est la
colonisation. Est-ce que la température, ça joue justement ou pas?
Ouais, mais c'est aussi
des réalités historiques de colonies, etc., etc. Mais ce qui me semble intéressant de dire, c'est qu'en fait, quand nous prenons acte de tout ça, que nous savons que nous sommes confrontés au conflit, c'est Abraham Maslow qui dit, écoutez, quand vous n'êtes équipé que d'un marteau, la tentation c'est de transformer tous les problèmes en clous. C'est ce que nous faisons le plus souvent. Mon enfant m'énerve, je n'ai qu'un outil, c'est taper dessus, etc., etc. Et dans la vie, c'est un peu pareil. Donc, par contre, tous mes problèmes ne sont pas des clous. Si vous essayez d'enlever une écharpe dans un doigt avec un marteau, vous allez vous faire très très mal. Et c'est bien ça. On peut mieux faire. Ça s'apprend. Ensuite, les cerveaux mécanismes dont vous parliez, comprendre que nous avons un cerveau reptilien, qui est celui qui prend la commande quand il y a danger, quand je suis très en colère, etc. Que nous avons un deuxième cerveau, celui des émotions, un troisième, celui de l'imagination. Ces cerveaux mécanismes ne sont enseignés nulle part. C'est-à-dire que nous avons une bombe entre nos deux oreilles, ne savons pas du tout comment elle fonctionne.
Et on a un beau siège de la pensée aussi, les deux oreilles.
En fait, ils ne le sont plus, parce qu'effectivement, cette conception en trois niveaux, elle a été un petit peu complexifiée plus récemment, parce qu'en fait, les niveaux communiquent beaucoup. Mais effectivement,
il n'y a pas des tiroirs séparés les uns des autres.
MacLean a été, modifiée aujourd'hui, mais elle peut servir à penser.
On écoute Malcolm X, 1964.
Pour ce qui est de la non-violence, il est criminel d'enseigner à un homme de ne pas se défendre alors qu'il est constamment victime d'agressions violentes. Une des raisons de mon combat est de choquer, de réveiller les Blancs. Car s'ils ne se réveillent pas, ils vont découvrir que ce petit nègre qu'ils croyaient passif est devenu un lion rugissant et incontrôlable.
Jean-François Bernardini, alors justement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Il n'y a pas dans cette idée de la non-violence le refoulement absolu de l'agressivité et du conflit. Hein.
Il ne s'agit pas de ne pas se défendre. Il s'agit de concevoir que si tu utilises des mauvais moyens, tu vas à ta perte. Il y a une incompétence universelle de la violence à régler quelques problèmes que ce soit. Il y a une étude très intéressante qui est sortie très récemment. Elle est portée par deux universitaires, par Erika Chenoweth et par Maria Stéphane. Elles ont étudié entre 1900 et 2006 123 conflits au total dans le monde. Elles apportent la preuve aujourd'hui que quand tu utilises la non-violence, tu gagnes deux fois plus. Quand tu utilises la violence, tu perds deux fois plus. La fin est dans les moyens comme l'arbre est dans la graine. Tu utilises la violence, forcément tu la retrouveras en face. Et c'est là où il faut éduquer. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ça n'est pas enseigné dans toutes les écoles du monde ? C'est très intéressant comme question. Est-ce que vous pensez que les puissants de ce monde ont vraiment intérêt à ce que le peuple comprenne qu'il peut changer les choses efficacement ? Est-ce que vous pensez réellement que l'on a tous intérêt à émerger, à ensemencer des Rosa Parks, des Nelson Mandela, des paysans du Larzac, c'est-à-dire des gens qui utilisent des moyens nobles pour défendre des causes nobles ? La violence est un marché, mais la violence aussi, elle enterre les causes qu'elle prétend défendre. Vous donnez là un argument merveilleux à l'adversaire, qui finira d'ailleurs par entériner les véritables questions. Quand la violence est là, elle prend toute la place. On ne parle plus que d'elle. Et la réalité française le dit de manière éloquente aujourd'hui.
Et on aurait pu citer dans votre liste un autre nom, évidemment, celui de Gandhi.
En 20 ans, il retournera plusieurs fois en prison, mais il trouve chaque fois une nouvelle forme non violente pour défier l'Empire britannique. Désobéissance civile, boycott des produits anglais, marche du sel et grève de la faim. Le gouvernement britannique est finalement obligé de discuter avec lui et celui que Churchill appelle avec un certain mépris le petit fakir est applaudi même par les foules anglaises.
Voilà Laurent Beg, il faut quand même rappeler que c'est Gandhi qui a lui-même inventé le terme de non-violence. Hein.
Alors c'est vrai que c'est un terme qui a après été repris par de nombreux théoriciens, et vous en avez cité certains, et qui, de manière très surprenante, a été peu pris en charge par la recherche académique, qui vraiment s'est focalisée sur les ressorts de la violence, hein, sous différentes modalités, mais assez peu sur la régulation des conflits, même si on observe une élévation maintenant du nombre de travaux qui portent sur ce sujet, il y a un vrai déficit effectivement de recherche systématique.
L'intérêt c'est qu'aujourd'hui les sciences viennent confirmer la non-violence en disant c'est notre équipement de base.
Oui.
Nous sommes des êtres sociaux. Et plus il y aura d'écran d'ailleurs, et plus nous aurons besoin de présence. Parce que l'être humain est un être de rencontre, de lien, de relation.
Sociaux veut dire aussi violent, c'est-à-dire...
Oui, oui.
Bien sûr. Mais de fait, en tout cas, ce que montrent les neurosciences, c'est qu'il y a certainement un équipement qui nous permet de nous décentrer, de prendre en compte des points de vue différents et de chercher l'intégration.
Allez, j'aimerais qu'on consacre les toutes dernières minutes de l'émission ensemble au courrier des auditeurs. Galien nous dit ceci. Dès l'école, on mesure l'instruction avec l'idée de compétition. Notre société est basée là-dessus. La compétition n'est-elle pas une violence faite à ceux qui ne sont pas numéro un, c'est-à-dire à tout le monde ?
Oui, Gérald Duterte, dans ses travaux, il explique et il prouve qu'un nourrisson, entre 6 mois et 1 an, il y a déjà autour de lui, pour 25% d'entre eux, quelque chose ou quelqu'un qui arrive à ses fins. Il comprend déjà à 1 an que c'est la compétition, c'est l'obstruction, c'est empêcher, c'est être plus fort, c'est être dans la compétition. Et c'est bien ça qui est autour de nous, qui est dans notre biotope de tous les jours, et c'est bien ça qui nous prédispose à dire, si tu veux te faire respecter, priorité, violence.
Oui, après, il y a également des travaux qui vont dans ce sens-là, qui montrent que les indicateurs macroéconomiques d'inégalité des ressources, comme l'indicateur Gini, sont corrélés au taux d'homicide par-delà le monde. Donc on a effectivement des indices qui témoignent de ce que lorsqu'il y a des conflits autour des ressources ou des positions, les violences extrêmes se propagent, se développent.
Pascal nous dit, le rugby, la boxe, des sports très violents qui sont pourtant basés sur le respect. Quel est le ressort alors qui joue là-dedans ?
Même dans un sport, il y a des règles. Il y a des règles à respecter. Il y a un cadre. Il y a des limites. Sur un terrain de rugby, tu ne fais pas n'importe quoi. Et c'est bien ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un cadre et tu acceptes les notions d'agressivité. L'agressivité, c'est une très très bonne chose, elle est très importante dans la vie, dans le problème c'est j'ai droit à mes émotions, j'ai droit à tout, mais je n'ai pas droit à tous les comportements, y compris sur un stade.
Laurent Bègue.
Oui, je crois que ça implique également des facteurs précisément d'autocontrôle qui sont importants pour arriver justement loin dans un sport. Eh bien, il faut arriver précisément à maîtriser cette machinerie qui est la nôtre. Et donc, précisément, la libération aveugle de pulsions non coordonnées ne permet pas d'aller très loin dans les palmarès. Mmh.
Axel nous écrit, certains disent que la violence envers les animaux, c'est un terreau sur lequel pousse la violence entre les humains. Bref, étendons notre compassion et non-violence aux autres êtres qui souffrent.
À la nature, à la planète. Bien évidemment, l'homme est le seul être vivant qui empoisonne sa nourriture. Ce sont des violences structurelles extrêmement importantes qui nous environnent tous les jours et qui nous conditionnent, bien sûr.
Effectivement, sur la question des animaux, on a vraiment un mode de relation qui peut témoigner de la qualité de relation également entre humains. Il y a des travaux qui ont été bien menés sur la cruauté envers l'animal, par exemple, d'une personne, et puis c'est très à risque concernant les violences, par exemple, familiales, à tel point que certains services sociaux en Angleterre incite les travailleurs sociaux à poser des questions sur comment sont traités justement les animaux domestiques. Mmh. Et en général, lorsqu'il y a des très mauvais traitements, on peut retrouver aussi parfois des traces de traitements problématiques entre les humains de la maison.
Laurence demande, est-ce que les femmes sont moins violentes que les hommes? Y a-t-il des études sur ces questions dues à la nature, à la culture, à l'éducation, à la physiologie?
Alors, c'est une question très complexe parce qu'en fait, tout dépend également des mesures. Dans les recherches qui ont été menées, par exemple, sur les relations entre des partenaires à long terme, hétérosexuels, on constate que les femmes ont plus fréquemment que les hommes des comportements agressifs, mais de moins grande gravité. Mais après, tout dépend vraiment des mesures, des contextes. On peut pas vraiment généraliser. On distingue l'agression physique, l'agression verbale, l'agression directe, l'agression indirecte.
C'est multifactoriel. Voilà,
chez les juniors dans les lycées, on constate unanimement que les garçons se battent plus souvent que les filles. Mais il peut y avoir d'autres raffinements et d'autres méthodologies de la violence. On peut être très violent avec des mots. Voilà. On peut être très violent avec...
La parité également, dans la violence. Frédéric nous dit, j'ai eu la chance d'assister à une conférence de Jean-François Bernardini avec des élèves de 3e de mon collège. Je tenais à le féliciter pour son travail, son investissement, sa gentillesse. Donc voilà. Et un autre mail qui nous arrive d'Anne-Laure sur Twitter qui nous dit, la communication non-violente, c'est une méthode de communication que j'essaie de transmettre en prison. Il y a beaucoup de travail. Vous allez aussi rencontrer les détenus?
J'étais dans 4 prisons il y a quelques jours du côté de Strasbourg. Et là aussi, vous voyez, dire à un être humain qui est dans l'erreur, dans la faute, dans la souffrance, hein, c'est ça aussi, d'où vient toute cette souffrance, c'est de lui dire, tu as fait une faute, mais tu n'es pas ta faute. Tu as fait une erreur, mais tu n'es pas ton erreur. Tu peux te reconstruire, on a besoin de toi. Et ça, je crois que c'est extrêmement important de lui renvoyer et d'accueillir à la fois son erreur, sa souffrance, et de lui dire, mais tu peux mieux faire, et de l'aider à se relever, se reconstruire.
Xavier nous dit que vous parlez de violence physique, l'opposition entre le dessin et la kalachnikov, mais la violence peut être également verbale ou prendre tout autre moyen pour s'exercer, comme les dessins justement. De plus, la violence est également très personne dépendante, ce qui n'est pas violent pour moi, l'est pour mon voisin.
Certainement, mais après, on va bien sûr, pour étudier la violence, trouver une définition assez stable et circonscrite, hein, mais il y a une dimension subjective dans la violence, évidemment.
Ouais. Nous avons Barack Obama que nous allons écouter justement toujours dans le cadre de notre dossier sur la non-violence et pour reprendre la discussion que nous avions tout à l'heure sur les armes.
Lundi, je discuterai de nos options avec notre ministre de la Justice, Loretta Lynch. Je reçois trop de lettres de parents, d'enseignants et d'enfants pour rester sans rien faire. Je reçois des lettres de propriétaires d'armes à feu responsables qui pleurent avec nous à chacune de ces tragédies, qui partagent mon respect du Second Amendement, qui garantit le droit de porter des armes et ma conviction que nous pouvons protéger ce droit tout en empêchant quelques individus irresponsables et dangereux d'infliger des dommages à grande échelle. Le lobby des armes est bruyant et bien organisé pour défendre la mise à disposition sans effort d'armes à feu pour tous. Il va nous falloir être aussi passionnés et bien organisés pour défendre nos enfants. J'espère que vous me rejoindrez pour rendre l'Amérique plus sûre pour tous nos enfants.
C'était les vœux de Barack Obama en janvier 2016, Laurent Bègue.
Oui, donc effectivement, ces travaux qui témoignent de l'effet de la présence d'armes, disponibilité d'armes sur les homicides. Alors bien que le taux d'armement soit parfois très élevé comme en Suisse, aux États-Unis, on a une sorte d'interaction entre la présence de facilitateurs que sont les armes et d'un contexte culturel qui facilite leur utilisation,
qu'on s'en sert ou pas. Ouais. Voilà.
Mais globalement, effectivement, c'est un facteur de risque en soi d'avoir une arme à feu chez soi pour des homicides volontaires ou involontaires.
Ouais,
mais il y a aussi un déficit d'ensemencement de ce qu'on appelle l'empathie, le levain de la non-violence. Quand on est dans une une société qui produit de plus en plus d'exclus, d'humiliés. On parlait tout à l'heure de cette notion de douleur limite. À l'aéroport de Moscou, il y a un magasin à l'enseigne de Kalachnikov. On vit dans ce monde-là. Ouais. Et vous voyez, sur le problème des armes, effectivement, en Suisse, il y a 47 armes pour 100 habitants. En Europe, on est autour de 14-15 armes. Il n'y a pas plus de criminalité en Suisse. Qu'il y en ait. Donc ça veut dire qu'à la fois, il faut relativiser. Mais le problème, c'est véritablement ensemencer ce terreau de l'empathie. Apprendre très tôt, justement, que je peux être dans la douleur de l'autre. Tu ne chosifies pas l'autre. Je ressens ce que tu ressens. C'est cette initiation-là. Vous savez, on parle beaucoup de formation. On parle de moins en moins d'initiation. C'est-à-dire ce que nous offrait à un certain moment le village, le quartier, le club de sport, etc. Toutes ces offres-là finissent par disparaître ou par se vider de ce contenu empathique. Forcément, on élève et on finit par vivre un peu comme des crocodiles. C'est le premier étage qui fonctionne, c'est le cerveau reptilien. Et ça, c'est dangereux pour chacun parce que personne sur cette planète ne veut vivre dans un monde de crocodiles.
Laurent Bègue.
Oui, non, mais moi, j'insiste beaucoup sur la question de la narration. Comment est-ce qu'on va instiller dans notre culture des schèmes et des valorisations de solutions qui soient précisément basées sur l'écoute, la coopération et qui valorisent les conséquences pour tous de ces registres-là.
Et la parole, hein, on l'entend dans les propos de Jean-François Bernardini, écouter et laisser parler aussi, c'est une façon d'évacuer la violence. Hein. Ça commence peut-être même par ça, non ?
En tout cas, il y a une association effectivement entre déficit de communication verbale et agression. Alors, est-ce que c'est une cause ou un effet ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un lien qui est sous-tendu certainement par des capacités générales de l'ordre de la élaboration cognitive.
Ce que je ressens après 200 conférences dans des lycées, dans des collèges, ce que vous entendez le plus, c'est « ça fait du bien d'être écouté ». Parce que tout ce qui n'est pas exprimé est imprimé, et très souvent, ça mène... Ça peut être la goutte qui fait déborder le vase émotionnel.
Jean-François Bernardini, on donne l'adresse de votre fondation ?
AFC Humani, Fondation de Corse, www.org.
Voilà, pour ceux qui souhaitent vous accueillir par exemple dans les écoles ou ailleurs. Oui. Et puis ce concert le 1er décembre au Zénith de Paris pour la non-violence avec Imouvrini et 100 voix gospel. Merci infiniment
Merci à vous.
D'être venu aujourd'hui dans La Tête au Carré. Merci à vous, Laurent Bègue. On retrouve également ces thèmes dans votre livre « L'agression humaine » chez Dunod. Merci beaucoup. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu Vidard.
Le thème d'affaires sensibles.
Le massacre des Kurdes.